Au fil des pages. Une émission de la rédaction de Canal Academy. On retrouve Jean-Louis Chambon.
Chers amis de France et du bout du monde, bonjour. Heureux de vous retrouver sur l'antenne de Canal Academy à l'Institut de France pour ce nouveau Au fil des pages qui nous permet d'accueillir le professeur Michel Aglietta qui vient de faire paraître aux éditions Michalon un ouvrage particulièrement remarqué à dominante pédagogique, La crise, et en proposant d'éclairer ce débat en répondant à deux questions centrales. Pourquoi en est-on arrivé là et comment en sortir? Alors, monsieur le professeur, bonjour. Nous sommes heureux de vous accueillir ici à Canal Academy. Nous savons que vous êtes extrêmement sollicité, d'abord par l'actualité, mais aussi par de nombreux médias qui réclament vos avis. Donc, nous sommes très sensibles à votre venue ici. Alors, je rappelle que vous êtes polytechnicien, vous êtes professeur des universités, vous êtes consultant auprès de nombreuses organisations et vous êtes bien sûr un auteur prolifique, soit en solitaire ou en solo, soit à plusieurs mains, vous êtes habitué aux différents genres. Et vous avez été lauréat de nombreux prix, dont en particulier le prix Turgot du meilleur livre d'économie financière que vous avez obtenu avec votre confrère André Orléans, je crois pour la 16e édition. Alors, vous êtes par ailleurs consultant au CPII, c'est ça, et à Groupama Asset Management. Vous avez sorti en 2007 avec Laurent Bérébi un ouvrage qui a fait date, qui s'appelait « Désordre dans le capitalisme mondial » chez Odile Jacob. Et on peut le dire maintenant avec un peu de recul, qui était particulièrement prédictif, car ce que vous annonciez à ce moment-là était pour certains incrédules, loin de la vérité, mais aujourd'hui l'impensable est devenu réalité. Et c'est ce que vous annonciez déjà dans votre ouvrage. Et vous êtes à nouveau pour cet ouvrage nominé dans le nouvel ouvrage que vous êtes paraître, donc La crise, nominé pour le prix Turgot, la 22e édition. Et avec cette parution, nous retrouvons votre aisance pédagogique. La pédagogie économique, en matière d'économie, on en connaît l'importance pour la société civile, car on sait que de nombreux blocages proviennent de cette inculture particulièrement française dans ce domaine. Donc merci d'apporter votre pierre à nouveau à la pédagogie économique. Alors vous le faites en 10 questions plus une, avec la complicité du journaliste bien connu Pierre-Luc Séguillon, et vous apportez donc des éléments synthétiques pour comprendre ce désordre gigantesque qui peu à peu gangrène l'économie réelle. Alors nous allons revenir sur ces différents aspects à travers ces 10 questions, entre autres. Et je voudrais commencer par cette première question centrale que vous d'ailleurs vous traitez vous en deuxième partie, qui est de savoir en réalité pourquoi on n'a pas vu venir cette crise. Alors quelle est votre explication sur ce point?
On n'a pas vu venir cette crise comme on ne voit pas venir généralement les crises financières, car si on les voyait venir, il y aurait des comportements d'ajustement qui permettraient aux crises de ne pas exister.
Ah, d'accord, là, effectivement.
Donc ça, c'est, si vous voulez, c'est pas simplement une boutade. Ça veut dire que, contrairement à la vision, disons, dominante, qui est que la crise, c'est un peu un coup de tonnerre dans un ciel serein, mais le marché est capable de l'absorber, c'est-à-dire une vision exogène de la crise. Qui est la même chose, on ne verrait pas venir la crise, puisque ça serait un choc externe. Là, il s'agit d'un processus endogène, dans mon interprétation, qui est une interprétation dite keynésienne, dans lequel il y a une instabilité financière intrinsèque. Mais la crise est précédée par une phase euphorique, et dans cette phase euphorique, tous les risques semblent être très faibles, puisque les marchés d'actifs financiers, notamment la bourse, augmentent, les prix immobiliers augmentent. Donc, on a l'impression de pouvoir s'endetter énormément puisqu'on s'endette avec comme garantie la richesse qu'on achète avec l'argent emprunté. Et donc, les banques sont prises dans la même logique. Et donc, dans la mesure où on pense, et c'est ça peut-être qui est l'imprudence, on pense que ces prix des actifs vont monter, peut-être pas indéfiniment, mais comme on ne sait absolument pas quelle est la fin de la bulle spéculative sur les actifs, il y a une incertitude radicale. Et cette incertitude radicale, on la rationalise généralement. Donc, si vous reprenez la crise précédente qui a été celle de la bulle technologique de 2000,
oui, tout à fait,
il y avait toute une rationalisation comme quoi la nouvelle technologie permettait, disons, éliminer les fluctuations cycliques, permettait une croissance indéfinie. Cette fois-ci, c'était l'immobilier. Il y a eu une rationalisation comme quoi la hausse des prix immobiliers correspondait tout à fait à une demande normale. Il y avait beaucoup de migration, il y avait des augmentations de revenus. Donc, et c'est ça qui se fait. Et donc, dans la mesure où le risque est caché, et que l'incertitude est véritablement radicale vis-à-vis notamment du retournement des prix des actifs qui mettent le crédit ensuite dans une situation difficile, eh bien, effectivement, il est très difficile de prévoir les crises lorsqu'on est un acteur de marché pour prendre une décision de marché. Ça ne veut pas dire que des macroéconomistes, puisque vous l'avez signalé tout à l'heure, peuvent dire que les fragilités s'accumulent, mais même quelqu'un comme moi, par exemple, je ne pouvais pas prédire à quel moment.
Bien sûr, c'est ça le degré.
Or, quelqu'un qui prend des décisions pour essayer de faire des hautes rentabilités va aller à l'extrême et il se laisse généralement prendre.
D'accord, c'est la grande leçon. On comprend véritablement trop tard qu'on y est quoi, dans la crise. Alors, ce que vous dites, je pense que c'était utile que vous le développiez, c'est qu'on oublie un peu trop que les phénomènes de régulation entre la science économique classique et l'économie financière ne marchent pas de la même façon. Et que l'ajustement de l'offre et la demande dans l'économie répond à une logique qui fait que l'autorégulation intervient, alors que dans l'économie financière, généralement, offre et demande jouent dans le même sens.
Oui,
je pense que c'est un point extrêmement important.
Très important du marché du crédit et des marchés des actifs financiers. C'est qu'en effet, si vous avez une hausse d'un prix d'une marchandise quelconque, comme un bien durable, tout le monde veut en avoir, ceci va faire monter le prix, et finalement, l'offre va monter d'ailleurs, puisque ça sera plus rentable, et la demande va être découragée par la hausse du prix, puis on va acheter autre chose.
Donc l'ajustement,
dans
c'est
le marché des actifs, ce n'est pas vrai, puisque finalement, un prix d'actif est fonction de l'anticipation de la richesse future. Et d'autre part, le crédit est fonction, tout au moins lorsqu'il prend cette dimension, d'être du crédit pour acquérir de la richesse. Tout le crédit n'est pas comme ça. Vous avez évidemment du crédit pour la production. Mais là, il s'agit de crédit pour acquérir de la richesse. Donc, l'offre et la demande dépendent de la hausse du même prix, c'est-à-dire le prix de l'actif en question, les demandeurs parce qu'ils espèrent effectivement s'enrichir, et les offreurs, c'est-à-dire les banques, parce qu'ils prennent en garantie le bien en question, et ils se disent, si jamais l'individu en question a été trop imprudent, je vendrai l'actif avec un profit. Et donc, offre et demande sont corrélées positivement.
C'est ça
fiche en l'air la loi de l'offre et la demande.
Tout à fait, absolument. Donc, je crois que c'est un point de base fondamental, mais enfin qui explique.
Et qu'il faut, et que tout le monde n'a pas saisi, y compris beaucoup d'économistes.
je vous le fais pas dire, cher ami. Alors, autre question, et ça c'est aussi une de vos originalités dans l'approche de cette crise, c'est que vous considérez que le déclenchement de la crise n'a pas comme point de départ les subprimes, donc le court terme, le court passé plus exactement, mais a commencé en Asie en juillet 1997, page 33 de votre ouvrage. Je vais dire à nos très très brièvement, mais vous allez pouvoir développer ce que vous écrivez. Pour comprendre comment s'est déclenchée la crise financière mondiale que nous traversons actuellement, il faut opérer un retour en arrière et revenir à la crise asiatique. Celle-ci a éclaté en Asie du Sud-Est en juillet 1997. Elle fut suscitée par le processus habituel de la croissance excessive de l'endettement, aggravé par le fait que les banques locales empruntaient à court terme en dollars et finançaient la spéculation immobilière et le surinvestissement industriel en monnaie locale. Alors, ça a commencé donc bien avant la crise.
Oui, on pourrait même dire que la hausse de l'endettement est encore plus longue. Mais ce qu'a fait la crise asiatique, c'est de créer ce qu'on a appelé l'accumulation des déséquilibres globaux, c'est-à-dire de l'endettement de l'économie américaine parce qu'elle était financée par le monde entier et non pas seulement par les épargnants américains. D'ailleurs, les épargnants américains ne finançaient plus rien du tout puisque les ménages se sont mis à consommer et à s'endetter. C'est eux qui se sont endettés. Et l'épargne totale des États-Unis, de l'ensemble de la nation, a baissé. Hein. Donc, s'il y avait eu que l'épargne américaine pour financer l'immobilier américain, il serait sans doute tombé. Soit ils auraient lancé de l'inflation parce qu'ils auraient monétisé beaucoup, c'est-à-dire qu'il aurait fallu créer de la monnaie. Et l'inflation, à ce moment-là, aurait été bloquée par la Banque centrale, dont l'objectif est de stabiliser les prix. Et on aurait sans doute eu un développement probablement de l'endettement en des ménages, mais il serait arrêté plus tôt. Donc, ce qui a été la commission permissive, en tout cas, de ce phénomène d'endettement excessif énorme, hein, puisqu'on est passé, si vous voulez, de 80% du revenu disponible en ce qui concerne la dette des ménages au début des années, à cette époque, 1998, au sommet, en 2007, à 180%. Enfin, donc, il y a eu un dérapage fantastique. Donc, ce qu'il a permis, c'est en effet le recyclage des capitaux des pays asiatiques qui sont sortis de leur propre crise précédente en devenant excédentaires avec des monnaies très surévaluées par l'exportation. La contrepartie de l'exportation a été d'engranger de l'épargne. Et comme il n'y avait pas assez de moyens, disons, de type d'investissement à l'intérieur, ils ont recyclé cette épargne aux États-Unis. La conséquence, c'est que le taux d'intérêt a été extrêmement bas très longtemps, même quand la Fed a commencé, la Banque centrale a commencé à monter ses taux. Et c'est ce que Greenspan, à l'époque, avait appelé l'énigme du taux d'intérêt, n'est-ce pas? Et donc, des taux d'intérêt très bas très longtemps ont permis aux banques de réaliser tout leur processus. Faire de l'innovation financière, titriser les crédits, et les ménages se sont trouvés dans des conditions extraordinairement favorables pour s'endetter. Donc en effet, la condition permissive est liée à cette étape de la mondialisation caractérisée par des taux de change bas et maintenus bas par les pays asiatiques notamment, qui voulaient à tout prix sortir de la crise antérieure et rebondir très vite en faisant tirer leur croissance par l'exportation. Et l'autre élément qui a été favorable, bien sûr, c'est l'entrée de la Chine dans l'OMC, qui a permis aux prix internationaux de baisser en quelque sorte. La Chine envahissant avec des produits industriels a empêché l'inflation et donc les banques centrales voyant pas d'inflation ont laissé faire très longtemps.
Mais ce qu'elles ne voyaient pas, c'est l'inflation des actifs en quelque sorte.
Parce que alors, ça elles les comprenaient.
Elles
les voyaient évidemment, mais
elles les voyaient fait mal.
C'était pas leur job. Hein.
Mais voilà, c'était pas.
C'était pas leur job. Et notamment, Greenspan a toujours pensé que l'économie financière, justement, grâce aux dérivés de crédit, grâce à toutes les innovations, était capable d'absorber les chocs hein, et d'absorber plus d'endettement qu'avant. Il avait rationalisé ça. On le voit dans son livre récent sur ses mémoires, si vous voulez. Il considérait que le niveau d'endettement était certes très élevé. Mais parce que l'économie avait muté, elle était devenue une économie financière beaucoup plus sophistiquée, eh bien, elle était capable d'absorber ces niveaux de dette qui n'auraient pas été absorbés autrefois.
Je vois un petit sourire qui semble vouloir dire que vous n'étiez depuis longtemps pas tout à fait d'accord avec cette approche.
Non, parce que moi, ce que je comprends de l'innovation financière, c'est qu'en même temps qu'elle crée des nouvelles méthodes de transférer le risque, crée de nouveaux marchés, qui sont des marchés souvent, disons, risqués eux-mêmes et à grosse difficulté. C'est ce qui s'est passé avec la titrisation du crédit immobilier. C'était des marchés qui étaient eux-mêmes très illiquides, dans lesquels les transferts, disons, vous voyez, les produits titrisés sur les crédits passaient de main en main. Et ils dépendaient d'entités comme par exemple les hedge funds ou les banques d'investissement, qui sont des entités à capital insuffisant et qui dépendaient de la liquidité des marchés. Et justement, à partir du moment où vous développez des marchés compliqués, vous avez toujours des maillons possibles où la liquidité va faire défaut. Et ceci crée des effets de contagion. Là où on croyait qu'il y avait des disséminations de risques, et donc un risque qui était plus étalé et plus faible, c'est vrai quand tout va bien, mais ça se transforme en contagion en fulgurante quand ça commence à aller mal.
Et donc, c'est ce qui vous permet de dire qu'en définitive, la théorie keynésienne qui consiste à dire que les marchés sont efficients, vous, votre thèse, c'est plutôt de dire que l'instabilité est endogène et intrinsèque.
Non, mais ça, c'est la théorie keynésienne.
C'est ça.
La théorie de l'efficience, c'est justement la théorie standard, disons néoclassique, appliquée à la finance. Et d'ailleurs, c'est le creux de la question. Les marchés ne sont efficients que si on postule que la liquidité est toujours parfaite. Et c'est ce qui est postulé dans la théorie standard de la finance. Si vous pensez que la liquidité est un problème collectif, parce qu'il n'y a que la monnaie qui est vraiment liquide, il y a des situations d'angoisse des opérateurs qui savent plus trop où en sont les valeurs, et s'ils craignent que les valeurs soient très surévaluées, ils se replient sur la monnaie et tout le reste n'est plus liquide. C'est ce qu'on a vu dans cette crise-là, où les marchés se sont grippés, y compris la monnaie bancaire, hein, puisqu'on a vu que les banques se prêtaient plus du tout, ne restait plus liquide que les bons du Trésor et le cash, c'est-à-dire la monnaie de la Banque centrale. Et donc, c'est ça la question fondamentale. C'est le lien entre ce qui va se passer et que ne voit pas la théorie standard, parce qu'elle fait cette hypothèse sur la liquidité, le lien qui va produire une crise générale, qu'on appelle systémique, c'est l'interaction entre des problèmes de solvabilité, c'est-à-dire des crédits excessifs qui sont douteux, enfin, qui tournent mal, avec des problèmes de liquidité de la part des intermédiaires financiers. Et ça, c'est crucial. Et alors, pourquoi est-ce que ça a pris cette dimension dramatique? C'est que justement, les banques d'affaires qui ont été à la clé du problème n'ont pas de base de dépôt et donc n'avaient pas de réserve liquide et dépendaient de la liquidité des marchés. Des marchés, ça veut dire de qui? Ça veut dire des gros investisseurs institutionnels qui leur prêtent de l'argent par le marché monétaire.
Donc,
à partir du moment où ces gens-là ne voulaient plus rien leur prêter, voyant que derrière, il y avait des cadavres dans les placards, si j'ose dire, hein, dans les bilans des banques, eh bien, la liquidité s'est asséchée et on est passé au risque systémique.
Et donc, ce que vous dites, c'est que l'instabilité est inhérente à l'économie de marché.
Elle est inhérente à la finance.
Hein, à la finance.
En fonction de la relation dont on a parlé tout à l'heure.
Tout à fait.
C'est-à-dire de cette montée aux extrêmes de la finance.
Autre question, avant peut-être d'aborder le côté peut-être positif, c'est-à-dire de regarder quels sont les scénarios ou les scénarios de sortie de crise. Est-ce que vous vous considérez à aujourd'hui, malgré l'actualité qui vient encore de, presque tous les jours de faire apparaître des escroqueries, faire apparaître des dégâts cachés, est-ce que vous pensez qu'on commence à s'approcher de la fin, en tout cas de la première partie d'une crise, ou vous pensez qu'on est encore loin d'avoir tout vu ?
La fin de la première partie, en effet. C'est-à-dire que le paroxysme de la crise financière, je dis bien purement financière,
oui,
est probablement en le mois de septembre et jusqu'au milieu du mois d'octobre. C'est-à-dire dans cette période où les gouvernements ont enfin pris conscience que le système bancaire dans son ensemble pouvait s'effondrer, pas seulement des États-Unis, mais du monde entier, avec des faillites en chaîne de très grosses banques. Et donc, on prit tous les moyens qu'il fallait pour ça avec les banques centrales. Hein. Les deux piliers ont été banques centrales et gouvernements. Donc, il me semble qu'en effet, la crise systémique est probablement en maîtrisée. Et si jamais il y a d'autres chocs, on a vu que ça s'est produit, hein, oui, avec Citigroup, qui est quand même l'une des plus grandes banques du monde. C'est en novembre qu'elle a eu des difficultés. Oui. Hop, ils ont tout de suite réagi de la même manière.
Bon, octobre et novembre ont été absolument terribles pour les
pays. Alors, donc, ce côté-là, il est peut-être maîtrisé par les outils qui existent. Il suffit d'en mettre encore plus, quoi, en quelque sorte.
Oui.
En revanche, le choc a été tel que tout le secteur privé, non banque et aussi non banque, c'est-à-dire entreprises et ménages, cherchent à se désendetter. Et on a une logique qu'un économiste bien connu, enfin pour ceux qui travaillent là-dessus,
hein, oui,
qui s'appelle Irving Fisher, avait montré en 1933 la déflation de dette. Hein, c'est-à-dire la contraction des bilans. Et ça, c'est extrêmement dangereux pour l'économie. C'est-à-dire ça se transmet à l'économie. Car pour faire de la déflation de dette, il faut s'arrêter de dépenser. S'il y a trop de gens qui font la même chose, et c'est le cas,
à ce moment-là, l'économie s'arrête.
Eh bien, vous avez tout ce processus de force dépressive qui s'enchaîne lui-même. Donc, le danger aujourd'hui, c'est celui-là. Et ce danger est déjà acté, d'une certaine manière, en ce sens que, dans ce quatrième trimestre en particulier, la récession est forte, que ce soit aux États-Unis, en Europe. Au moment où nous parlons, on est en récession profonde. Baisse de la consommation et baisse du PIB. Donc, le danger, c'est de voir ce processus-là s'amplifier de lui-même et s'entretenir de lui-même. De quelle manière? Par des faillites d'entreprises. Et les faillites d'entreprises créeraient de nouvelles dettes, les nouvelles dettes insolvables, je veux dire, qui recréent des problèmes aux banques, qui s'ajoutent à ceux qui existent déjà.
Oui, donc, c'est la spirale infernale.
Encore leur situation, etc. Donc, cercle vicieux. Donc, pour éviter ça, il faut autre chose que ce qu'on a fait jusqu'ici. Il faut être capable de soutenir l'économie suffisamment pour que on évite à la récession d'être trop profonde et trop durable. On ne peut plus l'empêcher, la récession, elle est là. Hein. Et notamment qu'on évite la baisse des prix, qui pose ensuite de gros problèmes à l'économie et à la finance. Et qu'on reparte, disons, avant la fin de l'année 2009. Ça, c'est le meilleur scénario. Mais il suppose des actions très fortes des États pour dépenser. Car le problème d'aujourd'hui, puisque le secteur privé veut se désendetter et ne plus dépenser, ben, il faut qu'il y ait un agent qui soit capable de s'endetter et de dépenser, et il n'y a plus que la puissance publique.
D'accord. Alors nous allons revenir après une courte pause sur ces solutions de sortie de crise.
Percer le secret des chevaliers teutoniques, ordre hospitalier du XIIe siècle, dans l'émission Un jour dans l'histoire. Une émission en libre écoute et libre téléchargement sur Canal Académie.
Monsieur le professeur, si vous voulez bien, nous allons reprendre le cours de cet entretien. Nous étions donc maintenant sur la phase, on va dire, dans le dur du sujet. Vous avez déjà évoqué le fait que nous sommes rentrés en récession. Alors, est-ce que vous pensez, vous, que les pays dits émergents, ou en tout cas la Chine, etc., peuvent encore représenter une chance pour l'économie mondiale pour un petit peu tirer vers le haut? Ou est-ce que eux-mêmes, c'est l'ensemble du monde, y compris eux-mêmes, qui sont dans ce processus installé?
Ils sont dans ce processus de manière induite, certainement. Donc, plus personne ne peut croire à cette notion de découplage dont on avait parlé jusqu'encore au milieu de l'année 2008, pour plusieurs raisons. D'une part, beaucoup de pays se sont eux-mêmes endettés fortement, ont profité de la situation dont j'ai parlé tout à l'heure, de bas taux d'intérêt pour s'endetter massivement, auprès notamment des banques occidentales. Alors, c'est le cas en particulier, parce que ça nous intéresse directement, des pays de l'Europe de l'Est, très fortement endettés vis-à-vis des banques de l'Europe de l'Ouest, qui, évidemment, maintenant, cherchent à monter leur taux de marge, leur taux d'intérêt sur ces pays-là. Et donc, vous avez un certain nombre de pays, c'est pareil en Amérique latine d'une certaine manière, l'Islande était un cas emblématique, de pays qui ont été, dans leur ensemble, imprudents et qui créent ces problèmes. D'autres pays sont très endettés, comme la Turquie ou l'Inde. Mais même les pays qui sont sans dette et qui ont eu une forte croissance jusqu'ici, cette croissance a été tirée par l'exportation. Une autre caractéristique de la crise, étant donné l'ampleur, comme je l'ai dit, des forces récessives en Occident, c'est que le commerce mondial, pour la première fois depuis bien longtemps, baisse. Et baisse absolument.
Ce qui est extraordinaire. Oui.
Et donc, un pays comme la Chine, qui en dépend énormément, est en train de subir très, très rapidement. Ça a très mal marché depuis octobre, si vous voulez. Et donc, ces pays-là ont des difficultés. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que trois pôles vont jouer un rôle crucial. La Chine, les États-Unis et l'Europe. La Chine a décrété un plan, disons, très impressionnant sur le papier. Le problème est de savoir maintenant s'il est capable, si les autorités chinoises sont capables de transmettre ça à leur économie rapidement pour pouvoir faire les dépenses qui sont requises. Ce n'est pas évident, d'autant qu'ils ont mis l'accent surtout sur des dépenses d'infrastructures qui sont essentielles pour leur croissance future d'ailleurs en même temps. Mais les dépenses d'infrastructures souvent mettent du temps avant de devenir effectives. Les États-Unis, le retard, eux, malheureusement, c'est le retard de la transmission politique. Mais il est clair que la nouvelle administration Obama va prendre, disons, des mesures énormes. C'est-à-dire, on parle, disons, d'un plan de 800 milliards de dollars, grosso modo, qui va faire 7% du PIB et qui va jouer à la fois, c'est ça qui est intéressant, sur des infrastructures qui ont été retardées pendant longtemps, il commence à y avoir des ponts qui s'effondrent aux États-Unis. Mais aussi sur les ménages qui ont la propension à consommer la plus forte, c'est-à-dire les ménages modestes. Je pense qu'ils vont faire un autre plan de réduction fiscale, réduction d'impôts, mais sur les ménages modestes, à l'opposé de ce que faisait Bush, en quelque sorte. Donc, on peut espérer que les États-Unis vont tirer le reste. Mais l'Europe pose un véritable problème, parce que les plans qui existent déjà jusqu'ici sont extrêmement modestes en quantité, c'est-à-dire qu'ils sont autour de 1,2-1,3% du PIB pour les trois plus grands pays, c'est-à-dire le Royaume-Uni, l'Europe,
sans comparaison
la France
avec les 7%
c'est énorme. Et ils ne sont pas coordonnés. Et ils ont des philosophies opposées. Les Anglais disent c'est la consommation qu'il faut soutenir parce que c'est les ménages qui nous posent problème.
Oui.
Les Allemands disent mais non, nous pas du tout, puisque nous c'est nos entreprises qui ont des difficultés, nos ménages ne sont pas endettés parce que le commerce mondial a baissé. Et donc, les Français se sont mis du côté allemand manifestement, puisqu'ils ne font que des aides aux entreprises. Le danger des aides aux entreprises dans la situation actuelle, c'est que les entreprises vont évidemment prendre l'argent, ceci leur fera des réserves, mais ils ne vont pas investir. Parce qu'il ne suffit pas de baisser vos coûts et vous donner des moyens de financement. Si vous n'avez pas de débouchés, vous n'investissez pas. Alors, ou bien les Européens pensent que, tout au moins les Européens du continent, de la zone euro, pensent que les Américains vont les tirer et que mettent leurs entreprises en état de profiter de la relance par les États-Unis.
Ce qui est un scénario qui vous...
C'est un scénario possible.
C'est, ouais, c'est un scénario possible. Donc, ce que vous dites, c'est que ce n'est pas la fin du système américain, c'est un nouvel équilibre géopolitique entre trois grands pôles, où chacun a un rôle à jouer et où ils sont, quelque part, extrêmement solidaires et interdépendants.
Oui, alors l'interdépendance globale, l'idée, c'est qu'elle devienne positive, alors que finalement, elle a été négative, puisque l'interdépendance dont on a parlé depuis la crise asiatique est une interdépendance qui a fait que le pays le plus riche, c'est lui qui recevait l'épargne des pays plus pauvres, et d'autre part, cette épargne ne servait qu'à la surconsommation. Donc on a eu une interdépendance pour le coup, elle a amené à la crise. Oui. Donc l'idée, c'est de trouver une autre interdépendance. Et donc là, le problème, donc je dis que dans la crise, la seule manière de faire, de toute manière, est d'en sortir. Et pour cela, il faut créer de la dépense publique. Il faut être vraiment totalement keynésien,
oui.
Parce qu'on est dans une situation totalement keynésienne.
Puisqu'il n'y a que l'État qui peut...
De manque de demande. Ben oui, manque de demande. Alors, mais après la crise, c'est une toute autre chanson, hein. Car après la crise crée des transformations dans les bilans nationaux, en quelque sorte, c'est-à-dire dans l'accumulation d'actifs et de dettes au niveau de la nation, complètement nouvelle. Parce que, en quelque sorte, l'État prend en charge la dette privée en s'endettant énormément. Et la dette de l'État dépasse les plans de relance dont on parle. Tout ce qui a été fait pour recapitaliser les banques, tout ce qui a été fait pour garantir les prêts, tout ce qui a été fait par la Banque centrale pour essayer de remettre le marché monétaire en mouvement, crée des gros problèmes du futur. Alors, je vous donne un premier exemple inquiétant, hein, je veux dire. La Fed, la Réserve fédérale, la Banque centrale américaine, est à la pointe, d'une certaine manière, de cette politique de sortir de la crise. Pour ce faire, elle a fait exploser son bilan. Son bilan a presque triplé entre le mois d'août 2008 et le mois de décembre. C'est extraordinaire.
Et ce que je crains que vous êtes en train de dire, que maintenant, c'est les bilans des banques centrales qui commencent à poser problème.
Ah ben, le bilan des banques centrales pose sérieux problème. Parce que non seulement le bilan a gonflé, la Fed prend des risques de crédit alors qu'une banque centrale n'en prenait pas avant. Donc, je vous donne là l'exemple. La deuxième caractéristique, la première, c'est, si vous voulez, le gonflement de la taille. Et le deuxième, c'est la structure. C'est-à-dire que vous aviez encore, avant la crise... La Fed travaille avec des bons du Trésor. Elle avait 90 à 95% de bons du Trésor dans son bilan. Elle n'en a plus que 20. Ce qui veut dire que qu'est-ce qu'elle a ? Des actifs dont certains sont toxiques, mais dont tous sont porteurs de risques de crédit. Le danger peut être que la Fed devienne insolvable.
Oui, alors ça, c'est
une banque centrale insolvable, c'est très intéressant, si j'ose dire. Mais ça veut dire que l'État devra venir à son secours, évidemment, en la recapitaliser, acquérir les actifs qui est dans le bilan de la Fed pour les mettre dans celui du Trésor et y mettre à la place, par un échange, hein, de nouveaux bons du Trésor pour la remettre dans un bilan normal. Mais à ce moment-là, ça veut dire que la dette publique va gonfler. Donc, de toute manière, la dette publique va gonfler d'une manière considérable. Et la leçon qu'on peut en tirer, mais les gens ne voient encore pas la chose, c'est qu'aujourd'hui, la Banque centrale et l'État forment un tout. Quand le taux d'intérêt descend à zéro, comme l'a fait récemment la Réserve fédérale, vous n'avez plus de différence entre politique monétaire et politique budgétaire.
Et
forme un tout. Et en conséquence, ça veut dire que l'indépendance de la Banque centrale a été jetée par-dessus les moulins. Et ça, c'était pourtant une doctrine de base depuis 20 ans, même plus de 20 ans. Bon. Deuxième élément. Le bilan de la Banque centrale va donc être pris en charge probablement par l'État en partie, mais en contrepartie, la Banque centrale va sûrement aider l'État à éviter que sa dette ne soit... Parce qu'une très forte dette peut entraîner de la part des créanciers, si vous voulez, une demande de taux d'intérêt élevée. Donc un processus très dangereux, beaucoup de dettes avec des coûts de la dette. Pour l'éviter, il faut monétiser la dette, il faut revenir à de l'inflation.
C'est pas un peu la situation française, non ? Enfin, beaucoup de dettes et avec des taux d'intérêt élevés. C'est pas encore tout à
fait
vrai.
Le taux de la banque centrale actuelle n'est pas très élevé. La situation en Europe est dangereuse, et ce n'est pas pour la France le plus, mais il y a une situation dangereuse en Europe, c'est-à-dire qu'on considérait après la création de l'euro, et les marchés l'ont validé, hein, que toutes les dettes publiques libellées en euros étaient pareilles.
Oui.
Et donc, d'ailleurs, les taux d'intérêt, les différences de taux d'intérêt payées sur les différentes dettes publiques jusqu'à 2007 étaient extrêmement faibles.
Oui, ouais,
même dans des pays comme l'Italie où la dette était élevée. Or, ils étaient
il y avait un lissage en quelque sorte.
20 points de base, ça veut dire 0,2% de taux d'intérêt maximum. Eh bien, maintenant, c'est 160 au maximum, c'est-à-dire 1,6% en plus. Donc, ce qui veut dire que le marché commence à considérer qu'il peut y avoir un risque d'éclatement à l'intérieur de l'Europe.
Oui. C'était ce que que je voulais vous amener. Et donc, alors, vous parlez de l'Italie, on ne parlera pas de la France alors.
Ben, la France, c'est un peu intermédiaire parce que ce qui va se passer, c'est que toutes les dettes publiques vont croître malgré tout. Alors évidemment, comment le font les Européens ? C'est pour ça qu'ils sont toujours plus ou moins sur la logique du pacte de stabilité sans le dire. On ne le dit plus parce qu'on dit qu'on a le droit d'une flexibilité dans cette
exceptionnelle,
situation.
Moyen exceptionnel.
Néanmoins, l'idée, c'est de dire qu'il est toujours derrière et Trichet ne cesse de l'affirmer. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ne veulent pas aller très loin en ampleur de leurs dépenses. La conséquence, c'est qu'il y a une très forte tension. Si on ne va pas très loin dans l'ampleur de ces dépenses, on risque d'enfoncer l'économie dans la récession. Et si on y va plus loin, il faut créer autre chose à la place du plan de stabilité, mais quelque chose de coordonné. Et c'est quoi le coordonné en question qui serait maintenant la vraie solution et qui serait de dire les crises normalement ont des opportunités, mais il faut les saisir politiquement, c'est évidemment de créer un budget européen et des éléments d'État fédéral.
C'est votre espoir inquiet, en quelque sorte.
Oui, parce qu'on a du mal à voir les choses aller dans ce sens, si vous voulez. Mais on sent que c'est ça. Exactement ce qui s'est passé en 1933. C'est-à-dire que l'État fédéral a créé un budget qui ensuite a régulé toute l'économie, après, avec Roosevelt, pendant le New Deal, et pour faire le New Deal.
Donc, c'est ce qui vous permettait de dire, dans un interview qui a été extrêmement remarqué à la Grande Époque, en novembre, une crise de cette importance crée des transformations irréversibles dans l'économie mondiale. Parmi ces transformations, il y a des dangers, mais aussi des opportunités de changer les choses. Et une de ces opportunités, c'est ce que vous venez de décrire. Donc, le scénario du pire, pour l'instant, vous n'y croyez pas trop
Alors, le scénario du pire, ça serait qu'on s'enfonce dans une récession qui dure plusieurs années, à la japonaise, mais au niveau mondial.
Un crack.
Ça serait très, très grave. L'autre scénario du pire possible, il est dans le futur, c'est que les dettes publiques elles-mêmes soient refusées par les marchés. Auquel cas, effectivement, on serait dans une situation catastrophique. Ou la seule solution pour en sortir dans un cas comme ça. Quand les États sont, évidemment, un État, disons, secondaire, qui est endetté en monnaie étrangère, comme l'ont été les pays asiatiques pendant leur crise, lui, il est coincé, il devient en faillite. Mais il est clair que les grands États du monde ne vont pas se mettre en faillite. Donc, ce qu'ils vont faire, c'est de l'inflation pour dévaloriser les dettes. Donc, la possibilité d'un régime inflationniste est non négligeable, mais à l'échelle de 3 ou 4 ans dans l'avenir.
Donc, en fait, ce vieux remède revient.
Ah, ça ne m'étonnerait pas. Ça ne m'étonnerait pas qu'il soit possible. Une autre possibilité, c'est si vous avez des zones qui sont divergentes vis-à-vis de telle évolution. Par exemple, les États-Unis se lancent dans un endettement très élevé. L'Europe le conserve un endettement limité. L'Europe profitant des États-Unis, le danger, il peut être que c'est les non-résidents qui acceptent plus de financer la dette américaine dans des conditions suffisamment favorables pour le débiteur. À ce moment-là, c'est une crise de change qui est possible, c'est-à-dire une crise du dollar. La possibilité d'une crise du dollar est aussi un scénario possible dans le futur.
Et la monnaie chinoise au milieu de tout ça, est-ce que vous voyez des signes de changement de politique où ils vont toujours s'en servir comme arme?
Non, mais la monnaie chinoise s'est appréciée d'une manière assez régulière depuis le moment où ils ont décidé de sortir de leur ancrage rigoureux avec le dollar jusqu'au mois de, disons, au milieu de l'année 2008.
Ils ont commencé à donner des signes de changement.
Mais alors, quelle est la raison? La raison, elle est, ça c'est intéressant, le problème asiatique d'ailleurs. La raison, elle est que les monnaies des pays qui commercent de plus en plus avec la Chine, c'est-à-dire de l'ensemble asiatique, qui crée une zone intégrée progressivement, ont énormément dévalué. Donc la Chine, en réalité, en termes de ce que les économistes appellent taux de change effectif, c'est-à-dire une espèce de taux de change pondéré par le panier des exports et des imports, c'est-à-dire des relations commerciales avec les partenaires, lui, s'est fortement apprécié.
D'accord.
Et donc les Chinois, voyant le commerce mondial, disons, s'effondrer, plus leur monnaie s'apprécie en termes commerciaux, ils disent on ne peut pas continuer comme ça et on va au minimum bloquer notre relation au dollar. Et donc, c'est ce qu'ils ont décidé. Mais je vois bien pourquoi ils le font. Mais la vraie solution, elle est ce que je considère aujourd'hui, c'est de dire l'Asie se trouve dans la situation où on était en Europe dans les années 70, lorsque, après le choc pétrolier, le dollar a commencé à se dévaluer fortement. On a eu des gros problèmes entre nos monnaies et on a été obligé de fabriquer un accord de change entre nous, qui a été le système monétaire européen. Ça ne m'étonnerait pas que dans les 2 ans qui viennent, les pays asiatiques soient amenés à constituer une espèce de zone monétaire.
Ah oui, d'accord. Qu'est-ce qui serait donc une emprise ?
Qui est aussi une des très grandes transformations possibles.
Ce professeur, je crois qu'il faudra qu'on fasse une deuxième émission parce qu'on n'a abordé qu'un dixième de ce que nous pouvons voir. Mais au moins, nous aurons mis nos auditeurs en appétit. Et je rappelle votre remarquable ouvrage « La crise » avec les vraies questions. Pourquoi en est-on arrivé là ? Comment en sortir ? Chez Michalon, 14 euros. Ce professeur, merci pour cette grande leçon de pédagogie. Merci encore à vous et j'espère vous retrouver dans une prochaine émission. Merci à vous.